19h sur le 93.9 de Divergence. Tout de suite, on retrouve Pascal Rullier pour Divergence Numérique, l'émission qui parle des logiciels libres sur le 93.9.
Terrorist networks. Terrorist states.
Nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique numéro 57. Et oui, déjà 57e émission. 7e émission de la saison 5. Une émission que j'anime tout seul ce soir. Gilles, remets-toi bien. On sait que il faut que tu te reposes. Et Anaël avec quelques soucis de locomotion, qui sans doute nous rejoindra en cours d'émission. On passera en revue l'actualité du libre ou comment la défense nationale participe au logiciel libre. On parlera aussi du viol de la GPL, de droits d'auteur bafoués, puis évidemment toujours Adopi, l'actualité. Divergence numérique encore plus numérique car depuis le 15 décembre 2009, ce qui est diffusé est une source numérique mais toujours acheminée sur notre site où se situe l'émetteur, en tout cas avec un pont Wi-Fi 5 giga mis en place par notre partenaire Montpellier Wireless. Et on va tout de suite commencer par les nouvelles du front.
Les nouvelles du front.
La fois dernière, on parlait de Thunderbird 3.0. Client de messagerie, et il faut savoir que celui-ci intègre du code de la défense nationale. En effet, la Direction générale de l'armement, DGA, a développé une déclinaison de client de messagerie de confiance à partir de Mozilla Thunderbird, une version finalisée et attendue en mai 2010. C'est un aspect méconnu de la sortie de Thunderbird 3.0. La nouvelle version du client open source de messagerie électronique intègre du code émanant du ministère français de la Défense, contribuant ainsi à l'élaboration de nouvelles fonctionnalités mises à disposition du grand public. Officiellement inauguré par la fondation Mozilla en début de semaine, Thunderbird 3 emprunte du code développé au sein du plus discret des ministères en raison de ses dossiers sensibles, souligne l'agence Reuters dans une dépêche. Ainsi, une déclinaison sous forme de client de messagerie de confiance, Mili Mail, rebaptisé Trusted Bird, a été développé au sein de la Direction générale de l'armement, ministère de la Défense, et ce à partir du client open source Mozilla Thunderbird. L'objectif, répondre à des besoins de sécurisation des communications électroniques militaires, authentification des mails, non-répudiation, priorité des messages, mécanisme de notification. Comme le disait David Asher, le patron de Mozilla Messaging, les premiers changements que les militaires ont faits leur permettent de s'assurer qu'un message a bien été lu, ce qui est crucial dans une chaîne de commandement. Nous avons commencé avec un projet militaire, mais nous l'avons rapidement généralisé, explique le lieutenant-colonel Frédéric Suel, un des promoteurs du projet. Parmi les fonctionnalités de Trusted Bird, directement issues des travaux des gendarmes, on retrouve un système d'accusé de réception, un avis de remise par le serveur, un gestionnaire de signature électronique et de notification d'absence. La genèse du projet Millimail remonte à 2006, période qui correspond à l'annonce faite par la Gendarmerie nationale, une autre entité du ministère de la Défense, depuis rattachée au ministère de l'Intérieur, de migrer les clients de messagerie de ses postes de travail vers Thunderbird. En mai 2007, une version 0.1 du logiciel est livrée. Il faudra attendre début 2008 pour voir une véritable première version finale de Millimail. Mi-2008, donc une version intégrant cette fois-ci les extensions de sécurité, est présentée. En mars 2009, au regard de l'intérêt que portent d'autres ministères ou organismes, le projet Millimail a été renommé Trusted Bird. Selon la DGA, une version finalisée du client de messagerie sécurisée est attendue en mai 2010. Vous retrouverez évidemment ces informations prises sur itexpresso.fr, messagerie, Thunderbird, etc. Vous retrouverez aussi ce lien sur l'article de notre émission. News suivante, un responsable de Mozilla recommande de laisser Google et d'utiliser Bing. Google grandit, Google fait peur, Google est partout. Le seul élément qui peut permettre à la société de continuer à grandir sans déclencher une vague de panique, c'est sa transparence. Il n'y a pas de mystère dans l'utilisation de technologies souvent libres et ou open source, réutilisation de l'existant, meilleure image, etc. Les bénéfices sont là. Mais si le PDG dérape sur la question sensible de la vie privée, que reste-t-il ? Il dit « Je pense qu'il faut faire preuve de jugeote. S'il y a quelque chose que vous faites et que personne ne doit savoir, peut-être il vaudrait commencer par ne pas le faire. Et si vous avez besoin qu'on respecte à ce point votre vie privée, le fait est que les moteurs de recherche, y compris Google, enregistrent et conservent des informations pendant un certain temps. Il faut bien réaliser qu'aux États-Unis, nous sommes soumis au Patriot Act et qu'il donc est possible que toutes ces informations soient mises à la disposition des autorités si elles le demandent. » Tels sont les propos donc d'Eric Schmidt, le PDG de Google. Difficile de ne pas avoir une première réaction épidermique devant un tel balayage du revers de la main des notions élémentaires de respect de la vie privée. Et devant ces propos, le responsable Asa Dotzler de chez Mozilla, qui dirige le développement communautaire, a pris le taureau par les cornes. Il a en effet recommandé aux utilisateurs de Firefox de laisser tomber Google et d'aller installer l'extension Bing. Se débarrasser du moteur de recherche d'une multinationale pour un autre, Bing ça sort de Microsoft, voilà qui ne manque pas de piquant. Il faut considérer surtout qu'en réponse à une remarque digne de soulever des vagues de protestation, une solution tout aussi digne est avancée. Asa Dotzler indique même qu'en matière de vie privée, Microsoft fait mieux que Google. Quand bien même les propos d'Eric Schmidt sont maladroits, ils contiennent tout de même un conseil qui devient de plus en plus important à mesure que les services tels que Facebook se multiplient et s'interconnectent. Si des éléments de votre vie privée ou de votre vie ne regardent réellement que vous, autant éviter d'en parler sur le web et notamment de le faire sur un site. Nous laissons des traces et les robots des moteurs de recherche parcourent toutes les pages pour indexer le contenu. Une news que vous retrouverez sur le site de PC Impact. Je vous propose, après ces deux petites nouvelles, assez longues d'ailleurs, une petite page musicale avec Monster Live. Donc c'est l'artiste ou le groupe plutôt No Fun. Et c'est sous licence Creative Commons by NC ND 3.0. Yeah.
that's the reason our stories end. I want to thank you for your strength and trueness. Oh, thank you, cause it just opened my eyes.
Monster Live par le groupe No Fun, extrait de l'album No One Knows No More. Et c'était sous licence Creative Commons by NCND 3.0 en autoproduction. Et vous retrouverez évidemment cet artiste, ce groupe, sous donc l'excellent portail dogmazic.net/no avec un N majuscule underscore. Fun, vous êtes toujours sur Divergence Numérique, 93.9 sur Divergence FM et sur le net, divergence-fm.org. N'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs sur le chat de Divergence que vous retrouverez évidemment sur la page d'accueil. On va évidemment passer encore à de la news adopienne avec la mission Zelnik. Et la culture qui cultive les retards, évidemment. Selon le site electronlibre.info, le rapport sur l'offre légale va une nouvelle fois souffrir d'un retard. Prévu pour début novembre, puis pour mi-décembre, le document censé améliorer le volet légal de la loi Hadopi est maintenant promis pour début janvier. Peut-être après en février, on ne sait jamais. Selon nos confrères, les grandes lignes sont déjà tracées, ce qui est rassurant à quelques jours de l'échéance. Jacques Toubon, Guillaume Cirutti et Patrick Zelnik s'inspireraient des propositions des producteurs de musique, lesquels militent pour une incitation fiscale via des crédits d'impôt notamment. Electron Libre évoque même l'idée d'un chèque pour les cultures numériques, une sorte de crédit à la consommation orienté culture. Restera alors à convaincre les consommateurs. Justement, en matière de marketing, de la peur, d'autres retards sont annoncés. Selon Le Point, cette fois, les ayants droit craignent que le départ de l'architecte d'Hadopi, Olivier Hénard, ne repousse la publication des fameux décrets d'application d'Hadopi. Des décrets devraient donner enfin des détails sur l'obligation de sécurisation. Toujours d'après Le Point, les premiers emails d'avertissement ne devraient être envoyés qu'en avril. Un mois d'avril très fructueux, car le 1er avril 2010, le 1er avril, Christine Albanel devrait rendre son rapport sur la mise en place d'une sorte d'Hadopi au monde du livre. Une news, évidemment, extrait aussi d'un excellent site pcimpact.com. Toujours dans l'Hadopi, quand Frédéric Lefebvre se sert de Slate.fr sans autorisation. Qui plus que Frédéric Lefebvre, porte-parole de l'UMP et député, a soutenu la loi Hadopi, pourfendant à grands coups de déclarations polémiques les internautes qui récupèrent illégalement sur le web des contenus protégés. On a beau chercher, on ne trouve pas. Mais le grand défenseur du droit d'auteur, qui a prêté serment d'avocat fin octobre, a aussi ses moments d'absence, visiblement. Nos confrères de Slate.fr FR explique ainsi qu'un de leurs articles concernant un lip-dub de l'UMP s'est intégralement retrouvé sur le site de Frédéric Lefebvre sans autorisation préalable, ce que la loi impose pourtant. Le texte est repris en intégralité sans permission ni de l'auteur ni du site. En outre, tous les liens qui émaillaient l'article original ont été supprimés. Et en prime, si la source est citée, le lien en bas de la page n'est pas actif. Il s'agit juste du copier-coller du texte de l'URL. Se désole le site d'information qui envisageait de déposer une demande pour retirer le contenu incriminé. Et c'est visiblement chose faite. Donc ce 16 décembre 2009. Pour Slate, tout cela dénote une méconnaissance qui semble fonctionner en sens unique, celui où Frédéric Lefebvre pille le contenu produit par d'autres, puisque son site, on retrouve la mention légale « Copyright 2008 Frédéric Lefebvre, tout droit réservé ». De son côté, le site du Monde note que Frédéric Lefebvre reproduit systématiquement tous les articles mentionnant sur son site web, quelle que soit la source, toujours sans lien et parfois sans mentionner l'auteur. Après avoir participé à un débat intitulé « Faut-il contrôler sur Internet ?» sur France 3, le porte-parole de l'UMP a également mis en ligne l'intégralité de l'émission sur son compte Dailymotion. Vous y retrouvez aussi sur cette émission « Faut-il contrôler l'Internet ?» l'excellent Benjamin Bayard de Fringe Data Network, FDN, premier fournisseur associatif. C'était un texte, on cite aussi nos sources, de Guillaume Delorence sur 01.net. Donc cette affaire, évidemment, de lip-dub de l'UMP sur le web, c'est $45,000 pour les artistes floués. Nos sources, c'est Marc Ries de PC Impact, avec qui nous avons donc l'autorisation de publier cet article. Selon la presse canadienne, l'artiste Marie-May et son producteur devraient percevoir donc $45,000, 30 000 euros environ, après la reprise sans droit de son interprétation. Tous ceux qui veulent changer le monde pour lip-dub de l'UMP. Les excuses du groupe politique pour cet usage et diffusion illicite n'ont eu que très peu d'impact. Christine Mastracci, avocate de la maison de disques Musicor, a expliqué que l'UMP avait contacté le producteur le 8 octobre dernier pour les droits de cette chanson et l'on avait dit non. Luc Plamondon avait donné son accord, mais sûrement pas pour une telle utilisation. Les jeunes de l'UMP avaient pourtant dit que Plamondon avait donné son feu vert pour la reprise du morceau. Si la position des ayants droit est vraie, c'est une atteinte évidente au droit moral. On ne veut pas qu'on se serve ainsi des artistes de notre groupe Musicor à des fins politiques. Depuis vendredi soir dernier que nous sommes sur ce dossier, une mise en demeure a été envoyée. Mais aujourd'hui, avec Internet, tout est tellement rapide. Le mal est déjà fait. Le clip avait été vu des milliers de fois. L'avocat a fait une piqûre de rappel par la même occasion. Elle dit « On se bat ici pour des principes moraux. Du matériel a été utilisé sans notre autorisation et notre accord. Une petite leçon, en fait, une grosse claque. » Adopi ou l'arroseur arrosé. Adopi étant indépendante de la technologie, une violation des droits d'auteur pourra générer une procédure en contrefaçon à la clé jusqu'à 3 ans de prison, 300 000 euros d'amende et une coupure d'accès au web d'un an. En plus de dommages et intérêts, et cela vaut aussi bien pour un téléchargement illicite sur du peer-to-peer ou sur une plateforme vidéo comme ici, Dailymotion par exemple. Reprenons ce que PC Impact disait dans cette actualité datant du 25 juin 2009, alors qu'Adopi 2 était en phase préparatoire. On peut continuer en roue libre puisque le périmètre du projet est infini, pourvu qu'on agisse en ligne. Exemple, Toto88, un internaute, met en ligne une vidéo de son enfant qui se vautre gentiment dans l'escalier de sa maison. Pour faire bonne mesure, il agrémente d'une musique protégée par le droit d'auteur. Les ayants droit dédaignent les cartouches et paf, Toto88 pourra être suspendu d'Internet pendant un an. Et on se doit d'imaginer quelle sera la situation si Toto 88 est un groupe politique de première importance qui a diffusé sans autorisation sur Internet la musique d'un groupe anglo-saxon. Vous retrouvez évidemment cette news sur pcimpact.com. Et moi, je conseillerais d'écouter ou de prendre de la musique libre, évidemment, tirée donc de l'excellent portail dogmasic.net. Et on va s'écouter un remix d'Istanbul Englouti, paru sur le label Fresh Pulp Records. Istanbul Englouti, qui a été à l'origine, c'était Rafi Ralfiro et d'autres artistes, en lui demandant son accord, évidemment, font des remixes comme E-Massive. Et donc, on écoute ce morceau-là et c'est sous Creative Commons by NCSA 3.0.
We'll be right back.
et on va jusqu'au bout des morceaux. Istanbul Englouti Remix par l'artiste Immassive sur l'album Fire. C'est du dub, vous l'aurez compris, c'est sur Fresh Pulp Records, fresh-pulp.net, et c'était sous licence Creative Commons by NCSA 3.0. Alors que Bruno s'amuse à mettre le tuner. Et oui, parce que quand je vous parle, quand je fais bip, eh ben, ce bip, vous l'entendez avec quelques secondes de retard. C'est ça le décalage temporel du stream. On poursuit nos nouvelles du front avec le SFLC qui contraint de passer à l'étape ultime pour faire respecter la GPL. Alors, on va détailler. SFLC, c'est le Software Freedom Law Center qui est en charge de constater et de régulariser les infractions de la licence GPL, le GNU Public License, qui vient de publier donc le 15 décembre 2009 un communiqué annonçant qu'il assignerait donc en justice 14 compagnies coupables selon lui de ne pas avoir respecté la licence GPL. Le SFLC estime découvrir une infraction à la GPL par jour. Il est à noter que si le SFLC en arrive à cette extrémité qualifiée de dernier recours, ce n'est pas sans avoir au préalable tenté de trouver un accord amiable avec les sociétés en question, et ce, de manière discrète. Le SFLC ne cherche pas, en effet, à pointer du doigt les sociétés qui, pour la plupart, ignorent tout simplement ce qu'est la GPL et ses implications, et cherche donc, en premier lieu, à expliquer le problème et aider à la résolution avec les entreprises concernées. Les entreprises ainsi accusées publiquement, donc Samsung, JVC, Western Digital, n'ont pas su répondre correctement aux demandes de la SFLC, soit en ignorant les requêtes amiables, soit en y répondant de manière inappropriée. Afin de respecter les droits des auteurs et utilisateurs, notamment du couteau suisse Busybox, un petit shell bien connu et qui est un peu partout sur le matériel embarqué, le SFLC a déposé une plainte ce jour, donc dans le district de New York. Il s'agit là de la première plainte aussi importante par le nombre des parties concernant le non-respect de la licence GPL. Une news que vous retrouverez sur un site incontournable, évidemment, qui est linuxfr.org. Et nous avons toujours l'autorisation pour publier leur dépêche. On va passer un petit peu plus à une partie nouvelle du front, mais côté logiciel, de l'Ubuntu 10.04. Ça y est, après la 9.10, la première alpha 1 est déjà là. Donc Ubuntu 9.10, puisque c'est sorti en octobre 2009, donc ça fait 9.10, qui a déjà une alpha 1 de la prochaine mouture d'exploitation, du système d'exploitation, donc quelque chose qui sortira en 2010 et donc dans le mois de avril. Tout simplement, une première alpha, les utilisateurs s'en méfient comme de la peste, car synonyme d'une instabilité conséquente. Toutefois, cette arrivée est intéressante puisqu'elle permet de suivre le chemin pris par la distribution Linux. Pour l'instant, l'Ubuntu 10.04 alpha 1 repose donc sur un kernel, un noyau 2.6.32, mais Lucid Linux propose essentiellement deux changements importants. Donc, vous l'aurez compris, la prochaine mouture 10.04 s'appelle Lucid Linux. La 9.10, si vous avez suivi les épisodes précédents, c'était Karmic Koala. Le retrait de HAL, Hardware Abstraction Layer, pour obtenir un démarrage plus rapide du système, ainsi qu'un temps de retour plus court après la sortie d'une mise en veille de votre ordinateur. Une utilisation aussi de KDE 4.4 bêta 1. Donc on démarre donc doucement. Mais il faut rappeler que Ubuntu 10.04 sera une version LTS pour long terme support. Cela signifie que la mouture cliente sera supportée pendant 3 ans. tandis que celle pour le serveur, pour les serveurs, aura un support de 5 ans. La procédure de développement change essentiellement sur 3 points. La synchronisation des paquets avec Debian est plus conservatrice et utilise donc la branche testing à la place de la branche installable. La stabilité commence très tôt. Stabilisation commence très tôt en limitant volontairement le nombre de nouvelles fonctionnalités. Les changements structurels sont limités autant que possible. Les utilisateurs qui voudraient tout de même tester cette alpha 1, ceux qui sont des grands dévoreurs de nouveautés, pourront la télécharger depuis le site officiel. Toutefois, nous ne saurions trop vous conseiller d'employer une solution de virtualisation telle que VirtualBox.org qui permet donc de faire une machine virtuelle en gardant votre système actuel et donc de lancer dans une petite fenêtre ou une grande fenêtre ou un grand écran une autre machine, voire plusieurs. Vous retrouverez évidemment ces infos sur PC Impact, toujours et le même. Toujours en nouveauté logicielle, le Pollen, un nouveau gestionnaire de sondage libre. Une version 1.2.1 de Pollen, avec deux L, vient tout juste de sortir. Pollen, qui est un gestionnaire de sondage développé en Java. Il se veut une alternative libre, GPL, au logiciel propriétaire Doodle ou au logiciel libre Papillon, tout en proposant plus de fonctionnalités, comme du sondage pour une image, par exemple, que ce dernier donc propose. Parmi les nombreuses fonctionnalités de ce nouveau venu dans le monde du libre, vous pouvez créer des sondages pour des images, des dates, des textes. Ces sondages peuvent être anonymes, en groupe, restreints à une liste d'utilisateurs qui peuvent être récupérés depuis un serveur LDAP. Les utilisateurs peuvent ajouter des propositions au sondage, des commentaires. Une version de démonstration est déployée sur leur site, hein, Pollen, P-O. 2len.corem.org. Tout le monde peut y créer des sondages. Pour les sondages sensibles, l'application est bien sûr téléchargeable et installable sur un serveur. Un logiciel encore jeune, l'équipe de développement est à l'affût de tous les bugs que vous pourrez lui remonter. Donc toujours une news extrait de Linux FR. Pas une petite pause musicale, on va faire en fait un petit détour par les jeux parce que c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de jeux dans Divergence numérique. On va en parler avec OpenTTD et maintenant un jeu complet entièrement libre. Donc ce jeu OpenTTD est le clone du jeu de stratégie Transport Tycoon pour les adeptes. Au départ, il permettait seulement d'utiliser les graphismes et son propriétaire du jeu original. Maintenant, on peut jouer à ce jeu sans utiliser les fichiers d'origine propriétaires et c'est une grande nouvelle. Le jeu d'origine n'étant plus commercialisé depuis des lustres, le jeu logiciel libre OpenTTD était devenu le meilleur moyen de jouer à ce jeu sur un système d'exploitation récent. De plus, il permet d'utiliser les nouvelles résolutions des écrans modernes. Cependant, il fallait pour cela aller télécharger le jeu sur des sites de logiciels abandonnés, Abandonware. La communauté étant très active, malgré l'âge canonique du jeu, plus de 15 ans, deux projets ont donc démarré, OpenGFX pour refaire sous licence libre tous les graphismes du jeu et OpenSFX pour refaire sous licence libre tous les sons du jeu. Aujourd'hui, ils ont annoncé la première version donc d'OpenTTD qui peut se passer entièrement des fichiers propriétaires. Cependant, on ne peut pas encore télécharger directement le jeu complet. Il faut utiliser un binaire très récent et télécharger séparément les fichiers OpenGFX et OpenSFX. Gageons que nos distributions favorites, qui fournissaient déjà à OpenTTD, sortiront bientôt des paquets prêts à manger. Toujours une news sur Linux FR. On va se reposer un petit peu avec de la musique, avec le groupe Café Flèche. Le titre, c'est Motorhead Demo. C'est sous le label Fern Records et c'est sous Creative Commons by NC Andy 2.0. Motorhead, démo par le groupe Café Flèche, extrait de l'album Fast, Loud and Stupid. Vous aurez évidemment compris que c'est du rock et c'est sous Fern Records et en licence Creative Commons by NCND 2.0, toujours pioché dans les dernières nouveautés de Dogmazic.net avec leur excellent player. Vous êtes toujours sur Divergence Numérique, sur Divergence FM 93.9 et sur divergence-fm.org pour nos nets auditeurs. N'oubliez pas, si vous êtes dans la région de Montpellier, quand même, de nous écouter sur le 93.9, ça fait quand même plaisir. Et évidemment, Noël approche, avez-vous pensé à offrir des cadeaux autorisant la libre diffusion ? Libre Accès tente de convaincre le Père Noël pour qu'il offre à Noël des cadeaux autorisant le droit de copie. Permettez à vos proches et à vos enfants de pouvoir donner une copie de leurs cadeaux à tous leurs amis en leur offrant des cadeaux libres. Mais oui, Libre Accès donc s'associe avec une Libro Veritas pour proposer une sélection de cadeaux d'œuvres utilisant des licences libres. Et c'est une bonne intention. Donc vous pouvez aller sur le site InLibro. Alors attention, ilv-biblioteca.net, ou plus exactement si vous allez sur le site de divergence-fm.org dans la rubrique donc elle est libre ma musique. Qu'est-ce que je raconte, ça y est, je dérive. C'est vrai qu'avec Bruno aussi aux commandes, on pourrait s'y tromper. Non, on est toujours sur Divergence Numérique. Donc dans la rubrique Divergence Numérique ou dans l'article du jour, vous retrouverez évidemment le lien donc de ces articles. Et donc vous pouvez vous-même fabriquer vos cadeaux de Noël ou pas de Noël hein, en allant sur des sites proposant des œuvres en libre diffusion. À titre d'exemple, Dogmazic pour de la musique, Boxon Copyleft, In Libro Veritas pour de la littérature, Cassandre pour de la vidéo ou pour de la musique, Wikimedia aussi. Ces sites vous autorisent légalement à télécharger et copier l'ensemble de leur catalogue. Oui, j'ai bien dit télécharger et copier l'ensemble de leur catalogue légalement et de le donner donc à tous vos amis. Vous allez sur ces sites pouvoir vous-même sélectionner ces œuvres et les graver, les importer sur donc des CD, des DVD, des clés USB et vous faites comme ça les pochettes de des albums, vous réimprimez du papier, pas de problème en offrant donc ces supports. Vous allez contribuer à faire connaître des auteurs, des artistes de grande qualité ayant fait le choix des licences libres. N'hésitez pas à envoyer à 2009@libreaccès.org vos sélections littéraires, musicales et cinématographiques que vous avez décidé d'offrir. Nous proposerons en libre téléchargement certaines sélections. Le mieux donc pour soutenir ces auteurs et artistes est certainement d'acheter leurs œuvres. Vous pouvez le faire toujours, pour exemple, donc sur les sites suivants, donc de la musique Pragmazic, donc un catalogue de CD impressionnant. Donc là, vous allez sur pragmazic.net, vous dites ah ben cet artiste c'est super, j'achète le CD. Donc on va vous envoyer un CD, disons le site Pragmazic va vous envoyer donc le CD de ce groupe, de votre choix. Vous allez évidemment payer ce support, cet envoi. Et il faut savoir que sur Pragmazic, à peu près, il y a toute une transparence où part votre argent. C'est-à-dire que 66% retourne à l'auteur. Le reste part pour moitié dans un fonds de soutien pour les artistes et l'autre pourcentage restant donc pour les frais de fabrication et donc d'envoi. Dans la littérature, vous avez donc In Libro Veritas, donc un catalogue de livres très impressionnant. Donc vous pouvez les lire en ligne de la même manière, les télécharger légalement. Vous pouvez aussi les commander pour avoir donc le support physique. Donc In Libro Veritas, qui est un éditeur de livres, dit que, évidemment, ce n'est pas forcément ceux qui sont téléchargés le plus qui sont les moins bien vendus. Bien au contraire, c'est bien l'inverse. C'est-à-dire que même très téléchargé, c'est même leur meilleure vente. Et sinon, d'autres initiatives à offrir, comme la Framaki, évidemment, sur le site de Framasoft. C'est également donc la période des dons ou de charity business. Peut-être auriez-vous l'envie de vous laisser tenter à soutenir l'une de ces associations ou projets. Toujours pour exemple, c'est non exhaustif évidemment, Framasoft, Wikimedia, Dogmazic, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site. On va se faire une petite pause musicale. Allez, hop, morceau numéro 4. Le temps que je retrouve le titre, voilà. On va écouter Shloom. Mais oui, Shloom, par l'artiste Kalima, album Alive. Et c'est sous Creative Commons by NC Andy 2.5.
Speaking me the maze, if the truck one, if I go 3-3 for a kitty. Come on, the big you prangy for a camp or wiki for a camp or a kitty. What about the brass beef and the trees and the keys for the car? What the villain meets up in the walk on with the mini walk on fast? Well, they left and they walk in the lanes. They win on the walk on in the big car for me, the big car so beef on the big car. They the wolves and the beats for the frog, make cold in the hell of a half get track. Whoa. Cold. I win on the brown. Wanna work on reason me, sit the freaking down. When they beat the round, when they become on post, when I for what city, what they walk on. What? I win in my bro, round me, mother broke my feet, and they call by tree. Maybe they come round the world, send a taste. Funky. Yo, when yo, I was drinking my bro, when they pick them all, but I really go, when they pick them all. I just did the rook more peace from the cracks and the feast to the keys to the kicks. Never coming back bronze, we never for the rock, we're drinking in the key, yes.
I
feel fast,
he made
a stick
up, I don't reach out. Yeah, yeah.
Vous êtes toujours là. Shloom par l'artiste Kalima, Albums Alive. Vous aurez évidemment reconnu de la disco-funk musique version méditerranéenne. Et c'était en licence Creative Commons by NC Andy 2.5. Et c'était en autoproduction. On poursuit nos nouvelles du front hivernal, toujours sur Divergence. numérique sur Divergence FM 93.9 et divergence-fm.org. ACTA, on en avait parlé la semaine dernière, une menace globale pour les libertés. Une coalition mondiale d'organisations non gouvernementales, d'associations et de consommateurs et de fournisseurs de services en ligne publie une lettre ouverte adressée aux institutions européennes concernant l'accord commercial relatif à la contrefaçon ACTA. Actuellement en négociation, ces organisations appellent le Parlement européen et les négociations donc de l'Union européenne à s'opposer à toute disposition dans l'accord multilatéral qui porterait atteinte aux droits et libertés fondamentaux des citoyens en Europe et à travers le monde. L'April fait partie des premières organisations signataires de la lettre ouverte. N'hésitez pas à aller sur le site www.laquadraturedunet, tout attaché. Un article que vous retrouverez sur artesi.artesi-idf.com et sur notre site dans la rubrique Divergence numérique. La Hongrie investit dans le logiciel libre et c'est une bonne chose. Ungre Corporation, leader des bases de données open source, vient d'en faire l'annonce en France. Un consortium de 7 sociétés mené par FreeSoft PLC, fournisseur hongrois de services en développement logiciel, a été choisi par le gouvernement de la Hongrie. À l'issue d'un appel d'offres, le consortium dont fait partie Ungre, a remporté l'attribution d'un projet logiciel en open source pour un budget de 4 milliards de forints hongrois, environ 15 millions d'euros sur 4 ans. Et c'est une nouvelle extraite du blog sur zdnet.fr. Un tiers des netbooks vendus sont sous Linux. Mais oui, selon une étude du cabinet Abbey Research rapportée par OS News, la part de marché de Linux sur les netbooks atteindrait près de 30% sur les 35 millions de machines commercialisées à travers le monde cette année. 11 millions auraient été livrés avec Linux. Des chiffres ne prennent pas en compte les modifications effectuées a posteriori par l'utilisateur, telles que le remplacement de Windows par Linux et vice-versa. C'est vrai que certains netbooks sous Linux, des fois, deviennent sous Windows ou sont complètement transformés ou vendus avec Windows parce que, paraît-il, Linux, ça fait peur. En tout cas, un pingouin, ça ne mord pas. Ou si vous le taquinez, oui, peut-être. Une information que l'on retrouvera sur clubic.com. On va se faire un petit peu de musique puisque il nous reste quelques minutes avant d'attaquer les agendas et des agendas outre-Atlantique. On va écouter Boys and Girls par le groupe Mucho Maestro. C'est sous le label Dying Giraffe Recordings et c'est sous licence Creative Commons by NCND 2.5. We'll be right back. Boys and Girls par Mucho Maestro sous le label Dying Giraffe Recordings. Un style assez surprenant. Ils viennent de Rotterdam, des Pays-Bas, alors peut-être au pays des moulins, avec de l'accordéon. C'était en licence Creative Commons by NCND 2.5, toujours sur Divergence numérique, divergence-fm.org et sur le 93.9 de Divergence ou Div.fm si vous avez regardé votre afficheur RDS ces temps-ci, qui a un petit peu changé d'ailleurs. On parle d'agenda, on parle donc de un agenda du libre pour le Québec. Et oui, depuis le 30 novembre 2009, il y a une version québécoise du célèbre site français L'agenda du libre. On y retrouve tous les événements relatifs à l'informatique libre du Québec, des installs fest Linux et rencontres mensuelles d'utilisateurs aux conférences Python, PHP, Ruby, en passant par les mapping parties. À mon avis, ils ont dû le traduire d'OpenStreetMap, évidemment, tout comme la version originale. L'agenda du libre du Québec est un service de calendrier en ligne. Les visiteurs peuvent exporter les événements vers leur application de calendrier favorite via des fils RSS Webcal ou leur application de nouvelles. Donc c'est www.agendadulibre.qc.ca, Québec, Canada. Et vous retrouverez par exemple le 18 décembre un meeting à Mug à l'école de technologie supérieure à Montréal, à Québec, concernant par exemple le logiciel Axterix, donc un logiciel de centrale téléphonique IP. Le meeting de décembre portera donc sur Axterix et le cross-compiling, et ils verront donc un projet d'une entreprise qui commercialise Axterix sur une carte PCI. D'autres petites nouvelles comme ça, la voie du libre. La Voix du Libre qui propose donc à Québec une émission donc de radio diffusée à Québec consacrée cette semaine donc à la distribution Gentoo, une distribution unique dans le monde des distributions avec l'équipe de Gentoo Québec dans les studios. Donc les studios de ils disent pas de qui, de La Voix du Libre peut-être, une émission en ligne aussi, etc. Agenda du Libre français. Donc c'est agendadulibre.org par exemple. Aujourd'hui, donc ce jeudi 17 décembre à 3, il y a un apéro du libre. Le 18 décembre à Belfort, un atelier GIMP. À Bruxelles, un séminaire de postes de travail libre, etc. Dijon, Libre Expose 3, une réunion de préparation. À Paris, une vidéo LAN DevDay 09, etc. Qu'est-ce qu'on peut noter en Antibes le 21 décembre, une soirée accès libre. À Nice aussi, une soirée accès libre. À Brignoles, une réunion mensuelle de Gulliver. Et puis après, évidemment, entre le 23 décembre et puis le 1er janvier, c'est un peu une période d'accalmie. Et puis on se retrouve le 30 décembre à Toulouse pour une rencontre de logiciels libres et une présentation du logiciel IceCroom. À Poitiers aussi, des réunions mensuelles. À Lyon, des conférences. Enfin bref, agendadulibre.org. À noter aussi le 9 janvier déjà, une Ubuntu partie à Montpellier et à la médiathèque Émile Zola. On en parlera au retour des vacances si celle-ci se passe avant le 9 janvier, évidemment. On ne sait jamais. Et c'est ainsi que se referme ce Divergence numérique, un peu tout seul dans le froid du studio, fraîchement éclairé. Merci d'avoir écouté cette émission. Vous retrouverez l'émission évidemment en podcast, tout chaud sans doute dès demain. Et portez-vous bien, soyez libres. Terrorist Networks.
Terra States. Terrace Networks. Terra States.
Et voilà, c'était Divergence Numérique sur le 93.9. Il est 20h pile poil. Dans quelques instants, on aurait dû retrouver C'est pas du jazz, c'est de la merde. Mais ça ne sera pas pour ce soir. On vous laisse dans les mains des sédiments magnétiques jusqu'au Rock à Joe à partir de 21h30 sur le 93.9. À tout à l'heure. Salut.